France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Le Hamas dit reporter jusqu'à nouvel ordre le prochain échange de prisonniers avec Israël. Nous ferons le point dans un instant sur la situation avec notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefèvre. Nouvelle phase de la guerre commerciale promise par Donald Trump, des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium. Une très mauvaise nouvelle pour la Corée du Sud, quatrième fournisseur d'acier des États-Unis. Nous irons à Séoul. L'intelligence artificielle, une révolution qui doit être bénéfique pour la France. Emmanuel Macron doit détailler les investissements à venir sur le territoire français. Valérie Cantier suit pour nous le sommet mondial sur l'IA qui se tient au Grand Palais. Et puis la loi handicap visant à rendre accessibles les lieux recevant du public et les transports en commun aura 20 ans demain. Et pourtant, il y aura tant à faire encore. Une cinquantaine d'associations manifestent à Paris. Mathilde Cariou est sur place. L'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza est-il remis en question? La branche armée du Hamas annonce reporter jusqu'à nouvel ordre la prochaine libération d'otages palestiniens, d'otages israéliens captifs à Gaza. Libération prévue en échange de celle de Palestiniens détenus par Israël. L'organisation reproche à l'État hébreu de ne pas avoir respecté l'accord de trêve en continuant à frapper l'enclave, en ne livrant pas toute l'aide nécessaire à Gaza et en entravant le déplacement de la population vers le nord. Vous êtes en direct de Jérusalem. Thibault Lefèvre, bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Alors que se passe-t-il Thibault? Pourquoi est-ce que le Hamas fait de telles déclarations maintenant?
Eh bien, c'est ce que craignaient les familles d'otages très en colère contre leur premier ministre depuis le retour de trois hommes en très mauvaise santé samedi. Elles accusent Benjamin Netanyahou d'être responsable de leur calvaire en retardant les négociations sur un accord de cessez-le-feu pérenne. En suspendant la trêve, le Hamas met de l'huile sur le feu à un moment crucial. Les pourparlers pour la deuxième phase devaient commencer lundi dernier. Ils sont pour le moment ajournés en attendant demain une réunion du cabinet de sécurité israélien. Et puis le premier ministre a fait savoir par voie de presse que son armée ne se retirerait pas de Gaza si les dirigeants du Hamas ne quittaient pas définitivement l'enclave. Une nouvelle exigence qui contribue donc pour le moment à faire vaciller un accord qui de toute façon est depuis le début très fragile, parce qu'on ne voit pas bien l'intérêt du Hamas de libérer tous les otages qui constituent sa seule et unique assurance vie. Et du côté israélien, si Benjamin Netanyahou veut se maintenir au pouvoir, il doit absolument donner des gages à son extrême droite favorable, elle, à la reprise des combats. Depuis le 19 janvier dernier, 21 otages ont été libérés contre plus de 700 détenus palestiniens. 8 dépouilles et 9 autres otages vivants doivent être rendus à Israël d'ici début mars en échange de plus de 800 prisonniers.
Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Et puis ces tensions surviennent alors que l'on a écho de nouvelles déclarations fracassantes de Donald Trump sur Gaza. Dans un entretien avec Fox News qui doit être diffusé ce soir, le président américain affirme que dans le cadre de son plan pour Gaza visant à prendre possession de l'enclave et développer économiquement le territoire, les Palestiniens n'auront pas de droit au retour. Gaza, c'est le thème de question du soir. Quentin Lafay et ses invités en parleront à partir de 18h20. Depuis son retour à la Maison-Blanche le mois dernier, Donald Trump a gelé l'aide étrangère des États-Unis, à l'exception de celle fournie à l'Égypte et Israël. Et l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, a été quasi démantelée. Bonsoir Virginie Pironon.
Bonsoir.
Conséquence de cette décision, l'une des plus grandes organisations humanitaires d'Europe, le Conseil norvégien pour les réfugiés, va devoir suspendre des activités dans près de 20 pays.
Oui, l'ONG, dans un communiqué, précise n'avoir jamais, en 79 ans d'existence, connu d'interruption aussi brutale de son financement. Ce sont des millions de dollars de demandes de paiement qui sont aujourd'hui en souffrance auprès du gouvernement américain. Pour vous donner une idée, Aurélie, en 2024, les États-Unis, avec 150 millions de dollars, finançaient 20%, soit un cinquième des activités du Conseil norvégien pour les réfugiés, financement qui a participé à aider 1,6 million de personnes à travers le monde. Sont désormais menacé de nombreux programmes, comme au Burkina Faso, où l'organisation est la seule à fournir de l'eau potable à certaines populations, dans la région soudanaise du Darfour, où sévit la famine et où elle soutient un réseau de 500 boulangeries. En Ukraine également, l'ONG a dû interrompre la distribution d'une aide d'urgence prévue ce mois de février à 57 000 personnes qui vivent dans des villages le long de la ligne de front. Et en Afghanistan, elle est contrainte de licencier du personnel qui, je cite, maintenait une bouée de sauvetage chancelante pour les filles et les femmes. Bref, ce sont les plus vulnérables qui vont être rapidement touchés, prévient l'ONG. Elle affirme que cette suspension de financement de la part des États-Unis va affecter des centaines de milliers de personnes dans près d'une vingtaine de pays.
Virginie Pironon, le président américain a par ailleurs annoncé qu'il allait faire passer à 25% les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Ces mesures affecteraient beaucoup le Canada, qui est le principal fournisseur d'acier et aluminium importés aux États-Unis, mais sont aussi concernés le Brésil, le Mexique ou encore la Corée du Sud. La Corée, sixième producteur d'acier dans le monde, est le quatrième fournisseur d'acier des États-Unis et cette décision pourrait mettre à mal le cœur de l'industrie lourde sud-coréenne. Correspondance à Séoul de Célio Fioretti.
Panique dans les aciéries sud-coréennes face à ces nouveaux tarifs douaniers risquant de faire exploser le prix des produits sud-coréens. Avec près de 2,5 millions de tonnes d'acier vendues aux États-Unis chaque année, l'industrie lourde sud-coréenne craint de perdre une importante source de revenus. Le ministre de l'Industrie s'est réuni en urgence avec les patrons du secteur pour réfléchir à toutes les éventualités de ce qui s'annonce comme une crise importante dans l'industrie du pays. Seul espoir de l'industrie sud-coréenne, le maintien d'une exemption déjà en place. En 2018, Donald Trump avait déjà augmenté de 10% les tarifs douaniers de l'acier, mais la Corée du Sud avait réussi à obtenir une exemption à condition d'un quota maximum de tonnes d'acier vendues par an aux États-Unis. Séoul espère pouvoir maintenir cet accord en échange d'investissements importants dans l'industrie américaine.
C'est Lio Fioretti à Séoul. Il y a deux mois, en Roumanie, la Cour constitutionnelle annulait le premier tour de l'élection présidentielle. Une décision prise après le score surprise d'un candidat pro-russe arrivé en tête avec près de 23% des voix à l'issue d'une campagne active sur les réseaux sociaux entachée de soupçons de manipulation. Aujourd'hui, Paul Kosygian, on apprend la démission du président roumain sortant, Klaus Iohannis. Il était sous la menace d'une procédure de destitution.
C'est une abdication d'un monarque déconnecté de la réalité, chassé de son palais sous la pression de la rue et des forces populistes, explique dans un éditorial à chaud la publication G4 Média. Tenu pour principal responsable du fiasco de l'élection présidentielle avortée l'année dernière et sous la menace de l'ensemble des forces politiques du pays qui s'apprêtaient à voter demain matin sa suspension, Klaus Iohannis a fini par jeter l'éponge.
Personne parmi nos partenaires étrangers ne comprendra pourquoi la Roumanie limoge son président, alors que la procédure d'élection d'un nouveau président a déjà commencé. Pour épargner à la Roumanie cette crise, je démissionne de mon poste de président.
Ce n'est pas du tout sûr qu'après ces 3 minutes 30 d'une déclaration certes solennelle mais d'une voix tremblante, le président désormais sortant mettra fin à la crise profonde traversée par la Roumanie. Car les preuves formelles d'une ingérence russe dans le scrutin présidentiel de décembre dernier tardent à faire surface. Et plus le temps passe, plus la confiance de l'électorat dans les institutions du pays se réduit.
Paul Kosygian à Bucarest pour France Culture. La France et l'Europe ne veulent pas se laisser distancer par les États-Unis et la Chine. Elles tiennent à rester dans la course à l'intelligence artificielle. C'est l'un des enjeux du sommet international de Paris où se retrouvent les principaux acteurs du secteur. Quelques 1500 participants venus du monde entier. Emmanuel Macron prend la parole au Grand Palais. Nous reviendrons dans un instant sur ses déclarations. Les autres chefs d'État et de gouvernement venus participer au sommet de l'intelligence artificielle prendront, eux, la parole demain. On entendra le vice-président. Premier ministre chinois, le vice-président américain ou encore la présidente de la Commission européenne. Bonsoir Pierre Roper.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Et puis un autre discours attendu, celui de Narendra Modi, le premier ministre indien qui co-préside ce sommet. Car l'Inde fait partie des pays qui se sont positionnés assez tôt sur l'intelligence artificielle et qui espèrent, grâce à ce sommet, prendre une place plus importante sur la carte mondiale de l'IA.
Oui, si l'annonce de la coprésidence de ce sommet par l'Inde à peine un mois avant le début de l'événement avait surpris, l'intelligence artificielle constitue bel et bien l'un des domaines de coopération entre Paris et New Delhi. J'en ai discuté avec Jean-Luc Racine, chercheur senior au think tank Asia Centre, et selon lui, cette coprésidence doit avant tout permettre d'appuyer les relations étroites entre la France et l'Inde.
Il faut quand même se rappeler que Narendra Modi avait été l'invité du 14 juillet et que quelques mois plus tard, Emmanuel Macron était l'invité du République des Indiens, avec derrière des intérêts économiques et des contrats de défense. L'Inde a déjà construit des sous-marins français en Inde même. Et puis, il y a les ventes de rafales. Et là, ce qui est sur la table, c'est les rafales marines pour les porte-avions indiens.
Emmanuel Macron et Narendra Modi vont donc avoir des rencontres en marge de ce sommet. Et il sera effectivement question des commandes de Rafale Marine de Dassault et de 3 sous-marins supplémentaires pour l'Inde. Cela signifie-t-il que finalement il s'agit surtout de diplomatie et qu'il n'y a pas grand intérêt à s'allier avec l'Inde dans le secteur de l'intelligence artificielle, Pierre ?
Alors non, l'Inde est bel et bien pour la France un allié de taille. Il faut rappeler que New Delhi s'est positionné assez tôt sur le secteur de l'IA dans l'espoir de ne pas se laisser distancer par la Chine. Dès 2018, l'Inde a publié sa stratégie nationale sur l'IA avec comme slogan « l'intelligence artificielle pour tous » avant d'investir massivement dans le secteur. Jean-Luc Racine.
En 2023, le gouvernement met en place ce qui s'appelle la mission indienne de l'intelligence artificielle, dotée d'un budget de plus d'un milliard d'euros sur 5 ans. Alors, ça met en avant 2 objectifs. 1, la croissance économique et 2, l'inclusion sociale. On parle santé, agriculture, éducation, transport, etc.
Depuis, l'Inde avance vite. Elle a de plus en plus d'instituts technologiques qui lui permettent de former des spécialistes de l'IA, même si ces derniers, il faut bien le dire, sont souvent recrutés aux États-Unis. Et puis, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Inde est désormais le 5e pays à déposer le plus de brevets liés à l'intelligence artificielle.
Et donc, est-ce que l'Inde est un partenaire capable de tenir tête, par exemple, à la Chine ou aux États-Unis ?
Alors, l'Inde reste à la traîne comparativement à ces 2 géants de l'IA. Il faut rappeler aussi que le pays rencontre des difficultés à être totalement autonome sur ce secteur, notamment sur la question des semi-conducteurs. C'est pourquoi, d'ailleurs, New Delhi a récemment approuvé 3 projets de construction d'usines destinés à la fournir en matériaux. En attendant, le géant sud-asiatique doit donc compter sur ses alliés, comme l'explique le chercheur Jean-Luc Racine.
L'Inde retrouve les grands paramètres de sa stratégie géopolitique. D'un côté, c'est ne pas se faire dépasser excessivement par la Chine, donc essayer de combler les déficits quand ils existent. De l'autre côté, jouer la carte donc des pays amis au sein desquels les États-Unis sont un acteur clé, mais pas unique. Et puis, le troisième volet, c'est le sud global. C'est-à-dire, il y a toujours ce discours indien, l'Inde gourou du monde. C'est le progrès qu'on accomplit, c'est bon pour le sud global. L'ambition, c'est le monde tout entier. Donc, l'IA ne peut pas ne pas s'y intégrer.
Dans les pays alliés de l'Inde, on compte évidemment les pays des BRICS+, le Brésil, la Russie ou encore l'Afrique du Sud. Et puis, il y a également à côté, on l'a dit, la France. Les 2 partenaires vont certainement se retrouver lors de ce sommet sur une question majeure, celle de la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle destinée à mieux encadrer l'IA. Narendra Modi est donc un soutien de taille pour Emmanuel Macron. Les 2 pays continueront d'ailleurs leur rapprochement en 2026 sur le plan de la recherche, puisque Paris et New Delhi ont déclaré l'année 2026 année franco-indienne de l'innovation.
Merci Pierre Ropert, et je rappelle que sur le site de France Culture et sur l'application Radio France est disponible la série podcast en 6 épisodes « L'intelligence artificielle, une arme géopolitique ». 112 communes de l'Ouest reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations exceptionnelles de fin janvier. Les villes de Rennes et de Redon en font partie. L'arrêté publié hier dans le journal officiel ouvre la voie à des indemnisations pour les particuliers et pour les communes. Sauf que ces dernières sont de plus en plus souvent confrontées à des difficultés avec leurs assureurs. Bonsoir Cyril Ardo.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Les compagnies d'assurance sont devenues frileuses, Cyril, face notamment aux risques climatiques.
Et parmi ces communes, il y a par exemple Blandec dans le Nord, 5200 habitants. Les inondations en novembre 2023 ont causé pour 1 million d'euros de dégâts et depuis le 1er janvier 2025, les cotisations d'assurance ont explosé. L'adjoint au maire Jean-Christophe Castelin.
On a reçu un courrier de notre assurance au mois de septembre qui stipulait la résiliation de notre contrat. 2 mois plus tard, nouveau courrier avec une très forte augmentation à la fois de la cotisation qui passe de 47 000 euros à 142 000 euros et de la franchise qui était de 10% en cas de catastrophe naturelle et qui là passe à un montant fixe de 500 000 euros.
Près de 100 000 euros de cotisation d'assurance en plus chaque année. C'est l'équivalent pour cette commune des salaires de 3 agents. Blandec va donc essayer de trouver un nouvel assureur cette année moins coûteux. Et à Montargis dans le Loiret, après les émeutes de l'été 2023, c'est la franchise d'assurance qui a explosé. En cas de nouvelles violences urbaines, la ville devra payer 2 millions d'euros de sa poche avant d'être indemnisée. Le maire Benoît Dijon.
c'est une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Bon, bah, écoutez, on va vivre avec. On est capable de faire front, de voir nos partenaires, qui sont le département, la région, l'État. Quand une chose comme ça vous arrive, c'est exceptionnel. Nous, on était la seule ville de la région centre à subir de tels dégâts. Et on a été très entourés.
Au total, l'Association des maires de France estime que 1500 communes rencontrent actuellement des difficultés avec leur assureur. Certaines ne sont même plus couvertes. Dans un rapport, le vice-président de l'AMF et maire de Vesoul en Haute-Saône fait 25 recommandations.
Pour qu'on connaisse mieux notre patrimoine, parce qu'il y a parfois des bâtiments qu'on n'a pas besoin d'assurer. S'ils sont éloignés de tout, qu'ils ont une faible valeur, qu'ils brûlent, bah tant pis. Donc, il faut affiner notre connaissance du patrimoine. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de passer tous nos bâtiments au peigne fin. On vérifie le moins de mètres carrés pour savoir s'il est vraiment assurable ou pas.
Ces recommandations signées Alain Chrétien sont assez proches de celles formulées dans un rapport sénatorial. Parmi les autres préconisations, permettre plus de souplesse aux collectivités locales pour renégocier leurs contrats ou encore créer un fonds spécial alimenté par les assureurs pour prévenir le risque de violences urbaines.
Cyril Ardot, l'Assemblée nationale rejette une nouvelle motion de censure déposée par LFI contre le recours de François Bayrou à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter sans vote la partie recette du budget de la Sécurité sociale pour 2025. La motion n'a recueilli que 115 voix sur 289 nécessaires en l'absence du soutien du RN et du groupe PS. Richard Ferrand va-t-il succéder à Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel? C'est le très probable choix d'Emmanuel Macron attendu ce soir. L'ancien président de l'Assemblée devra ensuite passer l'épreuve des auditions parlementaires, incertaines dans le contexte politique actuel. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et son homologue du Sénat, Gérard Larcher, doivent également procéder chacun à une nomination. Le 11 février 2005 était votée une ambitieuse loi en faveur des personnes handicapées, une loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. À la veille de cet anniversaire, une cinquantaine d'associations ont décidé de manifester à Paris pour rappeler que plusieurs dispositions clés de la loi restent inappliquées. Mathilde Cariou, vous suivez ce rassemblement. Quel est l'état d'esprit des manifestants ? Ah, on n'a pas de liaison avec Mathilde Cariou, que l'on espère retrouver dans un instant. Pas de liaison non plus avec Valérie Cantier, qui est au Grand Palais pour suivre les annonces d'Emmanuel Macron. On va donc évoquer la situation de Nicolas Sarkozy. C'est sa première apparition avec son bracelet électronique qui a été posé vendredi après sa condamnation définitive dans l'affaire Bismuth. Nicolas Sarkozy, de nouveau à la barre cet après-midi, au procès du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle 2007. L'ancien président, toujours aussi combatif, Yannick Falt.
Bracelet électronique à la cheville que l'on devine sous un pli de son pantalon, Nicolas Sarkozy continue d'être son meilleur avocat. Lui qui a prévenu ce week-end, le sentiment d'injustice que je ressens me confère une énergie décuplée. Une énergie pour démonter les accusations auxquelles il n'a pas encore répondu de différents membres du régime Kadhafi notamment. Un témoignage qualifié d'hallucinant pour l'un d'eux, un tissu d'inexactitude pour un autre, accablant de bêtises pour un troisième, un feu d'artifice, il est grave celui-là pour un dernier. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Quelle est leur crédibilité? Demande l'ancien chef de l'État. C'est gênant pour moi de répondre là-dessus, c'est même gênant pour la justice française. Oui, les innocents ont le droit de s'indigner, tente le prévenu, pour qui, dès qu'on s'éloigne de la femme, du fils, du beau-frère ou de la maîtresse de Kadhafi, les déclarations deviennent plus raisonnables. Aucune ou presque n'a pourtant jusque-là trouvé grâce à ses yeux, alors qu'on en est à la sixième semaine du procès.
Yannick Falt pour France Culture. Alors, on essaye de joindre Mathilde Cariou. Mathilde Cariou qui suit la manifestation des associations qui défendent les droits des personnes handicapées. Ce sera donc demain, le 11 février, les 20 ans de cette loi handicap. Mathilde, vous avez donc suivi cette manifestation. Alors, je ne vous entends toujours pas. Non, décidément, on joue de malchance. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, je vous donne quelques mots de météo. Il fera gris demain matin. La pluie se déplacera au fil de la journée de l'ouest vers l'est et le massif central. De belles éclaircies sont prévues l'après-midi sur la Bretagne et le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Les températures minimales seront comprises entre moins 2 et 6 degrés sur la moitié nord, entre 4 et 9 au sud. L'après-midi, il fera de 4 à 19 degrés du nord au sud.